9h-14h, la quotidienne d'Alexis sur Radio Marseillette.
Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
Le Bistrot du Livre, une émission proposée par Cépage d'Encre en compagnie de Françoise et Henri. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Et aujourd'hui, gros plan sur un animal marin. C'est comme cela qu'il se nomme. On pourrait aussi dire un homme solaire qui a fait de sa vie une épopée. Un poète aux multiples combats. Un amoureux impénitent à l'érotisme à fleur de peau. Un militant de l'action et du verbe. Quelqu'un qui a parcouru tous les continents et qui aujourd'hui réside à quelques pas d'ici, au pied des Corbières, un homme de la mer qui a choisi les vignes comme ligne d'horizon. Un voisin, il habite Lézignan-Corbières, ne sort plus guère de sa villa Adriana, l'un de ses titres les plus fameux, qui lui a valu le prix Renaudot, et il n'y a pas si longtemps, on l'apercevait encore sirotant paisible son petit café du matin à une terrasse du cours de Lézignan, ou poussant la porte d'une librairie avec ces mots à l'adresse des vendeuses. « Bonjour, mes petites amours. »
Son nom, René de Pestre.
René de Pestre a aujourd'hui 90 ans, à quelques mois près. Il est haïtien, cette Haïti qu'il porte dans son cœur comme un talisman sacré. Fils d'un pharmacien et d'une modiste, avec deux sœurs et deux frères. Il perd son père à l'âge de 10 ans. Sa maman, modiste donc, est couturière, travaille d'arrache-pied pour nourrir sa famille. Et au centre de la maison, trône ce qui est davantage qu'un outil de travail. Une présence tutélaire, dit de Pestre, qui lui a consacré un de ses premiers poèmes et qui a inspiré son dernier roman qui vient juste de sortir, car à 90 ans, l'homme a toujours la plume alerte. Le roman se nomme « Popa Singer » et le poème de jeunesse « La machine Singer », tout simplement.
Une machine singère dans un foyer nègre, arabe, indien, malais, chinois, annamite ou dans n'importe quelle maison sans boussole du tiers-monde, c'était le dieu lard qui raccommodait les mauvais jours de notre enfance. Sous nos toits, son aiguille tendait des pièges fantastiques à la faim. Son aiguille défiait la soif. La machine singère domptée des tigres. La machine singère charmée des serpents. Elle bravait paludismes et cyclones et cousait des feuilles à notre nudité. La machine singère n'était pas toujours une machine à coudre, attelée jour et nuit à la tendresse d'une fée sous-développée. Parfois, c'était une bête féroce qui se cabrait avec des griffes et qui écumait de rage et inondait la maison de fumée. Et la maison restait sans rythme ni mesure. La maison cessait de tourner autour du soleil.
À 19 ans, René de Pestre publie son premier recueil. L'année suivante, en 1946, c'est l'insurrection contre la dictature haïtienne. De Pestre est au premier rang. Le pouvoir est renversé, mais l'euphorie ne dure pas. Les militaires prennent le relais et envoient le poète en prison et ensuite le condamnent à l'exil. Direction la France, Paris, la Sorbonne, des études de lettres et de sciences politiques, des amitiés avec les surréalistes, avec aussi tous les intellectuels qui chantent et défendent la négritude. Il s'implique aussi dans les mouvements anticolonialistes, ce qui lui vaut d'être une nouvelle fois expulsé. Alors avec sa jeune épouse, il part vers Prague, s'intéresse au marxisme, milite, fait un premier voyage à Cuba, le Cuba de Batista, le dictateur, qui sera renversé par Castro et les siens, et là encore, expulsion. Direction l'Argentine, le Chili, où il croise Pablo Neruda et Jorge Amado, avec qui il organise un colloque intercontinental de la culture. Et entre deux actions, deux engagements, bien sûr, toujours l'écriture. Le poème, entre autres, pour chanter la femme, toutes les femmes.
Je chante toutes les femmes que j'ai franchies avec les mille rames de mon innocence. Toutes les femmes que j'ai aimées à grands cris de bon soleil dans la nuit. Toutes les femmes qui ont donné leurs rives heureuses à mes flots. En ce temps-là, mon cœur était une charrue inassouvie. un soc affamé qui cherchait la terre bonne et douce, la rosée qui féconde et apaise, le délire qui nous monte à la tête.
Le poème aussi pour dire sa foi en l'humanité, et peu importe la couleur de peau.
Il n'y a de salut pour l'homme que dans un grand éblouissement de l'homme par l'homme, je l'affirme. Moi, un nègre inconnu dans la foule. Moi, un brin d'herbe solitaire et sauvage. Je le crie à mon siècle. Il n'y aura de joie pour l'homme que dans un pur rayonnement de l'homme par l'homme. Un fier élan de l'homme vers son destin qui est de briller très haut avec l'étoile de tous les hommes. Je le crie, moi que la calomnie au bec de lièvre a placé au dernier rang des bêtes de proie. Moi, vers qui, toujours, le mensonge braque ses griffes empoisonnées. Moi, que la médiocrité poursuit nuit et jour à pas de sanglier. Moi, que la haine dans les rues du monde montre souvent du doigt. J'avance, berger de mes révoltes, j'avance à grands pas de diamant. Je serre sur mon cœur blessé une foi si humaine que souvent, la nuit, ses cris me réveillent.
Et l'aventure continue pour René de Pestre. Toujours intéressé par le marxisme, il croise Che Guevara qui l'invite à participer à la révolution qui vient de gagner à Cuba. Il s'implique dans les programmes mis en place, réforme agraire, alphabétisation, l'occasion d'un nouveau mariage. Et le temps aussi des voyages officiels dans les pays amis, URSS, Vietnam, Algérie ou Chine. Mais derrière l'idéologie et le protocole, chez De Pestre, l'érotisme et le plaisir ne sont jamais bien loin. Ainsi, dans ces nouvelles réunies sous le titre « Eros dans un train chinois », là, nous sommes en Yougoslavie.
Je rentrais de ma promenade solitaire quand je la vis dans la rivière. Je restais cloué sur la rive. Muet d'admiration. Debout dans le courant, une jeune fille rinçait du linge qu'elle essorait avec force avant de le lancer dans un panier d'osier. Elle était en short kaki très court et en corsage bleu pâle. Brûlée par l'été, elle avait la peau presque aussi foncée que la mienne. J'avais, sous les yeux, la plus belle fille du monde. Parlez-vous français, mademoiselle ? J'ai fait une licence de français à Zagreb. Pourrions-nous converser ? C'est l'heure de rentrer, un autre jour peut-être. Demain ? Oui, demain, pourquoi pas. Le lendemain, elle était exacte au rendez-vous. Durant la première heure, on n'échangea pas une parole. On enleva, en silence, nos vêtements, tandis que de nos lèvres sèches, on s'effleurait tout tendrement les yeux, les oreilles, la nuque, les épaules. Nos ventres et nos poitrines lièrent aussi connaissance, en frôlement doux et câlin. Mon sexe se leva gaiement contre le sien, caracolant de respect et de gratitude.
L'aventure cubaine s'arrêtera en 73, écartée par Castro, en rupture avec le marxisme. De Pestre revient à Paris et travaille pour l'UNESCO, avant de se retirer en 86, à Lézignan donc, et c'est là que la gloire viendra le chercher, avec le prix Renaudot pour Adriana dans Tous mes rêves, en 88. Aujourd'hui, le poète ne sort plus guère de sa villa Adriana. Il contemple le monde comme il va, un brin désabusé, comme en atteste ce testament poétique.
Dans le reflux de l'histoire à ma porte, il n'y a rien dans le temps, ni dans l'espace. Rien de neuf à découvrir dans les cendres des utopies. Je suis aujourd'hui ce poète sans chat, ni fax bavard dans sa maison de campagne. Ce magicien sans jaco ni internet face au chagrin de ses milliers de livres. Cet hidalgo noir sans argent frais ni portable pour héler les fous de l'achat et de la vente. Je reste ce poète en danger sous les obus du consumérisme, cet homme enfermé dans sa loi naturelle. Ma capacité de souffrir trouve un chien et un chez-soi dans le malheur d'autrui. À chaque offensé en frère, j'offre un feu. À chaque humilié en copain, j'offre la joie de vivre du dernier cerceau de mon enfance. Loin de la rage consumériste qui épuise la grande santé du monde, je jubile à l'idée d'un départ à zéro. Je bande en rital à rêver d'une flamme autre pour les soirées d'hiver de ma petite lampe.
René de Pestre, une voix à part, une voix forte de la poésie haïtienne, une écriture singulière et attachante de la langue française, pour un homme discret et modeste qui a su faire de sa vie d'exilé une vie de rencontres, de riches heures. C'était en 80 pour une radioscopie de Jacques Chancel, De Pestre et l'exil.
J'ai su en quelque sorte faire de mon exil qui est pour tout homme une maladie. J'essaie d'en faire une espèce de santé, la santé de mes poèmes, si santé il y a, et la santé de mes livres, et ma propre santé personnelle. Je crois que c'est ce que tout homme doit essayer de faire, de changer, et tout état maladif en état de santé. C'est-à-dire que ce qui m'a permis de tenir si longtemps en exil, c'est le fait que j'essaie de prendre racine partout où j'étais. Et c'est pour cela que maintenant, je peux parler d'identité pan-humaine. Quand j'étais au Brésil, je réactionnais comme un Brésilien, je me sentais Brésilien. Quand j'ai vécu à Cuba, j'ai vécu longtemps, près de 20 ans, et je me suis, quand il y a un espagnol qui dit très bien ça, mais qu'on ne peut pas traduire en français, je vais essayer, qui s'appelle aplatanado. Aplatanado veut dire bananiser. C'est-à-dire que partout où je vais, j'essaye de me bananiser, c'est-à-dire de prendre souche, de trouver partout des hommes, des amis, des femmes. Et je crois que c'est une espèce de contre-exil. Sinon, on peut tomber dans l'alcoolisme, on peut tomber dans le désespoir, on peut être un dépaysé complet.
Pour les amateurs de l'œuvre polymorphe de René de Pestre, outre son dernier roman « Papa Singer », sachez qu'un livre vient de lui être consacré, réalisé par des universitaires suite à un colloque international qui s'est tenu à Limoges en 2014 et qui analyse et rassemble toutes les écritures diverses de l'écrivain haïtien. Son titre, Le Soleil Devant, aux éditions Hermann. Vous retrouverez bien sûr toute la bibliographie de René de Pestre sur le site de la radio à la rubrique Le Bistrot du Livre. Voilà pour le gros plan, et sur le comptoir ce matin, un titre, Charlie ?
J'ai choisi Vincent Ravalec pour Cantique de la racaille. Alors Ravalec, c'est un petit peu la jeune garde, hein, celle qui ne connaît absolument pas le complexe de l'auteur, celle qui écrit comme si elle tapait sur une batterie. Alors c'est la génération d'un monde sans pitié qui va se reconnaître dans un univers fait de désillusions, mais aussi d'ironie, un bon paquet d'espoir, de combines foireuses et de besoins d'amour. On suit les pas de Gaston. Gaston, c'est un petit voyou parisien, mais même si c'est un voyou, il est quand même droit, honnête dans ses relations aux autres. Il a des principes, une certaine morale et même parfois de la grandeur d'âme. Une écriture rapide, concise et vraiment sincère où des losers nés ou simplement des victimes de concours de circonstances. Eh bien, les personnages qui hantent les pages de Cantique de la racaille ne croient plus en grand-chose. Et pourtant, il faut pas grand-chose justement pour repartir au quart de tour. Une fille qui passe, une mélodie bien balancée et c'est parti. Donc Vincent Ravalec pour Cantique de la racaille.
Super, merci.
En plus, j'aime bien ce titre.
Ah oui, c'est un très joli titre, ouais. Merci, Françoise.
Eh ben, c'est un dictionnaire. Alors, ce dictionnaire,
pour
il
changer.
Fait 300 mots. Et ces 300 mots étaient choisis parmi les 58 700 du Petit Larousse, les 60 000 du Littré, les 80 000 du Grand Robert. Et ils ont été choisis par Michel Tournier, écrivain, philosophe, recréateur de légendes, passionné de dictionnaire. Il les appelait les greniers à mots et il est mort avant-hier. 300 mots choisis pour, je le cite, « leur étrange beauté », leur opacité qui les rend inutilisables, ou leur appartenance à des familles bizarres ou fantaisistes, ou parce que lui, Michel Tournier, les avait inventés. Alors ça s'appelle « Le pied de la lettre », 300 mots propres, c'est édité au Mercure de France, et on pourrait tous faire pareil, tous se faire un petit dictionnaire des 300 mots, voilà.
Merci, et ma sélection aujourd'hui, à l'heure où l'on célèbre l'anniversaire des révolutions arabes, un livre d'actualité qui prend le contre-pied de l'actualité. Cela s'appelle « Histoire minuscule des révolutions arabes », en hommage au livre magnifique de Pierre Michon, « Des vies minuscules ». Rappelez-vous, janvier 2011, la Tunisie, la révolution de Jasmin, suite à ce qui s'était passé à Sidi Bouzid, où un jeune vendeur de légumes, Mohamed Bouazizi, s'était immolé par le feu après avoir été harcelé et frappé par la police. Alors après, comme une traînée de poudre, une révolution en marche, et qui a gagné l'Égypte, la Syrie jusqu'au Bahreïn. Aujourd'hui, des révolutions confisquées peu ou prou, où seule la Tunisie se bat pour sauvegarder une fragile démocratie. Alors ce que raconte le livre, des instants de vie d'anonymes, car ce sont bien les anonymes qui font les révolutions. Des garçons, des filles, une prostituée ou un vieux général, à travers tout le monde arabe qui font ou qui regardent ces révolutions en marche. D'un Algérien désabusé qui, sur son balcon, le temps de 10 cigarettes, observe son pays inerte, anesthésié par une gérontocratie qui maintient son couvercle sur une jeunesse sans horizon. Ou alors ce jeune homme qui, en Égypte, se remplace à rire pendant la Révolution, malgré l'interdiction de ses parents, pour participer bien sûr, mais aussi pour retrouver cette jeune fille aperçue la veille. À peine le temps de la retrouver et les balles des militaires qu'ils faucheront. L'histoire de Zina encore, réelle cette histoire, qui avait osé afficher sur Facebook sa nudité et sa fierté, comme en brandit le drapeau de la liberté. En tout, 43 histoires minuscules, belles à pleurer, mais riches d'expériences. Car ce que nous dit ce livre, c'est qu'une révolution ne se décide pas. Elle surgit sans crier gare, suffit d'un incident de trop. Ce qu'il nous dit aussi, c'est que l'idéal de la révolution s'écrase le plus souvent contre les murs des pouvoirs militaires, financiers, ce que certains appellent avec cynisme les intérêts suprêmes. Histoire minuscule des révolutions arabes, aux éditions Chèvrefeuille, à lire d'urgence. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Vous êtes bien sur Radio Marseillette, votre radio audoise.